J'associe spontanément la Bourgogne à un grand émoi patriotique. J'avais pris un jour d'hiver le train à Venise pour rentrer en France et j'avais détesté les structures agraires de la plaine du Pô, tous ces enclos d'origine romaine aussi réguliers qu'un quadrillage au-dessus d'un chantier archéologique. J'avais été déçu par la pauvreté rationaliste du paysage. Cela ressemblait à la énième mosaïque exhumée dans l'atrium d'un complexe latifundiaire. Cela ressemblait à un triste problème de mathématiques antiques. Étant donné le nombre de parcelles, calculer le nombre d'amphores qui seront nécessaires pour stocker tout le blé produit. Je m'étais endormi là-dessus, c'était un train de nuit, et je m'étais réveillé à l'aurore au milieu des gelées blanches de la Bourgogne. La terre avait là une douceur que j'avais oubliée au contact râpeux de la plaine italienne. Elle était modelée par la main invisible, non du rendement agraire, mais des générations tirées par les églises, enfoncées par les labours. Elle avait la fausse monotonie d'une sinusoïdale, pleine de creux ravinés comme des glas et de coteaux enlevés comme des carillons. J'avais des excuses, cela faisait trois mois que je n'avais pas vu la France et je me réveillais, un mélange d'effets tunnels et de barésisme, la Bourgogne comme expérience de mort imminente d'un étudiant en Erasmus, comme un tourment patriotique. Mais le principal tourment patriotique, c'est que la France existe. Souvent, les historiens, partis du constat que la France est trop grosse par rapport à la taille normale des pays européens, s'amusent à l'effeuiller comme un artichaut de pays possible. Le premier duché qui tombe, c'est justement la Bretagne, la patrie de l'artichaut. Le comté de Toulouse, notamment avec les albigeoise, est également facile à détacher. Et si le duché de Bourgogne semble mieux résister, c'est essentiellement dû à sa proximité trompeuse avec Paris. On y entre encore aujourd'hui par la ville de Sens, ville du bassin parisien encore avec sa cathédrale gothique. Mais la Bourgogne, anomalie monstrueuse du féodalisme, a frôlé plusieurs fois l'état de royaume. Toute ramassée aujourd'hui autour de Dijon, toute vendangée autour de Beaune, elle possède encore la forme d'un état fantôme pour celui qui consulte les cartes historiques. C'est l'ancien centre de l'Europe, le lieu des grandes foires, le point de contact entre les Flandres et l'Italie, la partie centrale de l'Empire de Charlemagne. C'est l'outil par lequel, comme une grosse cuillère à glace, les ennemis du roi de France ont sans cesse tenté de faire tomber Paris en faisant fondre son hinterland. La guerre de Cent Ans n'est rien d'autre qu'un énorme bœuf bourguignon qui serait presque venu à bout de la dureté héréditaire du royaume de France. On trouve encore à Paris les reliques de cette guerre, la tour Jean sans peur à la voûte flamboyante et végétalisée comme un bouquet garni, un panneau rue Saint-André-des-Arts qui signale qu'ici même un certain Périnet Leclerc aurait ouvert la porte qui devait livrer provisoirement Paris aux Bourguignons. Le royaume de France sera bientôt aussi petit qu'une comptine. Mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil? Beaugency, Orléans, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, la suite, vue de Paris, tient en cela du prodige, mais peu irrité, vue de Dijon. Fondant depuis Sens jusqu'à à vélo, j'ai voulu symboliquement me joindre à la contre-attaque en acceptant dans un premier temps tous les escargots et tous les mercurets qu'on me proposait pour endormir toute méfiance avant de me faufiler avec un complice sur le grand échafaudage qui entourait la basilique. J'ai touché là-haut avec une ivresse authentique la mousse qui poussait sur le faîte du toit avec l'impression d'être arrivé devant Jérusalem, mais surpris par un prêtre en plein selfie avec Saint Jean, nous avons dû piteusement désescalader le monument. J'avais de toute façon fini par comprendre que cette huile ne datait que de l'époque de Viollet-le-Duc, que l'énorme couvercle de l'histoire officielle avait été vissé au monument, encore plus solidement que mon échafaudage, et que l'appartenance de la Bourgogne à la France n'était plus vraiment discutée par personne. La Loire, récupérée le lendemain à la Charité-sur-Loire, possédait bien pourtant, dans son orientation nord-sud, quelque chose d'une frontière naturelle, bien soulignée par les deux bornes hyperboliques de la centrale de Belleville, et mal refermée, à l'endroit où la Loire pivote précisément vers l'ouest, par le pont-canal de Briard, qui apparaissait là, brillant de toute son ingénuité saugrenue, comme une sorte de barrière de douane entre la Francie et la Lotharingie fantôme.